bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM, c'est le retour du bouche à oreille en direct.
Waouh !
Super, hein ? Et aujourd'hui, nous recevons l'association Handball Club de Crépy-en-Valois, représentée par son manager général Thierry Foussard. Bonjour Thierry.
Bonjour à vous.
Alors Thierry, n'hésite pas à te rapprocher du micro, n'aie pas peur. Hein.
Non, voilà. Il n'a pas peur.
Voilà. Donc je suis accompagné de Luc à la technique, notre marsouin.
Oui.
Et de André qui va co-animer avec moi.
Bonjour.
Donc André, il paraît que tu es un spécialiste du handball.
Oui, bien sûr, oui. Surtout maintenant.
Eh bien, on va apprendre plein de choses sur le handball. On va apprendre que déjà, on ne dit pas handball, on dit handball parce que c'est allemand, c'est ça?
Oui.
Hein, donc on précise bien les choses. Voilà. Et puis avec Thierry, il n'y aura pas de secret. Parce que Thierry, manager général, on va découvrir ce que c'est le rôle d'un manager général.
Oui, hein, oui, bien sûr.
Donc pour les auditeurs, je rappelle qu'il y a notre Facebook RVMFM, si vous voulez laisser un petit message ou poser une question à Thierry. Il y a le téléphone 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @fm.com. André, je te laisse la parole.
Eh bien... On va d'abord faire connaissance avec Thierry Foussard. Vous êtes crépinois depuis longtemps ?
J'ai jamais été crépinois.
Ah, voilà.
Ah, le piège.
Oui.
Donc je m'appelle Thierry Foussard, j'ai 61 ans, bientôt 61 ans.
Oui.
Le 4 juillet, j'aurai 61 ans. Et je fais du handball depuis l'âge de 11 ans. Et je suis originaire de Pont-Sainte-Maxence.
D'accord.
Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi Crépy-en-Valois ?
Ben oui, bien sûr.
C'était la question qu'elle arrivait.
Oui.
Alors Crépy-en-Valois, c'est une histoire de famille. Parce que un des anciens présidents de Crépy-en-Valois, qui est Patrick Robert, était un des amis de mes parents. Et Patrick est venu jouer dans les années 70 à Pont-Sainte-Maxence. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Et le hasard de la vie a fait que quand Patrick a fini sa carrière de joueur, moi je commençais la mienne en tant que joueur senior. Et on joue au même poste. Donc déjà, on se connaissait, on se côtoyait, donc on s'est liés d'amitié, on a gardé l'amitié. Et rapidement, et après, dans mon parcours d'entraîneur, Patrick m'a sollicité de venir à Crépy pour la première fois en 1991. Mm-hmm. Ça a duré un an parce que c'était comme ça, c'était les aléas de la vie. Et l'actuel président, Éric Giraudon, à l'heure actuelle, et à cette époque-là, il était joueur, donc il avait 14 ans. Et donc, 30 ans après, il m'a demandé si ça me plairait de revenir à Crépy. Je dirais, moi, ce que j'ai dit, c'était fermer la parenthèse que j'avais ouverte.
Oui.
Donc, on est en train de travailler à refermer cette parenthèse. Donc, ça fait bientôt trois ans et demi que je dis que j'ai ce rôle sur Crépy.
Et on peut rentrer dans le détail. C'est quoi un manager général, alors, du coup, Thierry ? Ça consiste en quoi, ton travail ?
Alors,
en tant que bénévole, c'est ça, hein ?
Voilà.
On précise, alors, voilà.
Déjà, moi, je suis manager général bénévole parce que ça, c'est un souhait. Hein. Ça a toujours été dans ma philosophie. Moi, j'ai toujours... aujourd'hui, je suis un jeune retraité. Pour moi, le handball, c'est quelque chose, c'est un plaisir. C'est une distraction. C'est pas un travail. Donc, comme c'est pas un travail, j'ai jamais demandé de l'argent pour faire du handball. Donc, j'ai toujours resté bénévole. Mais ça, c'était mon choix personnel. Et j'ai rien contre ceux qui le font différemment. Donc là, le rôle de manager général, ça va être quoi ? Aujourd'hui, dans la structure du club... Il y a les élus, donc qui représentent le conseil d'administration. Est-ce qu'on va dire vulgarisement, c'est là où il y a le président, le trésorier, le secrétaire à minimum, parce que ça, c'est la loi de 1901. Et puis après, il va y avoir des gens qui viennent compléter ce système-là. Et il y a plus ou moins de gens selon les associations. C'est les associations qui choisissent ça. Et le président actuel, donc Eric, il a choisi, lui, de mettre en place une structure un peu particulière. Donc il y a ces structures élues, la structure salariée, puisqu'il y a des salariés. Et moi qui viens en interface entre les deux. Donc moi, je suis le conseiller de tout ce bureau d'élus. J'ai en responsabilité de la vie sportive du club, donc les stratégies qu'on va mettre en place, les projections futures, la capitalisation du moment, de ça on pourra en parler un petit peu après, et puis le rôle avec toute la partie, le suivi au niveau des entraîneurs, aussi avec les joueurs. Puisque on aura l'occasion d'en rediscuter après, à travers l'académie qu'on a mis en place. Donc moi, je vais avoir un rôle d'interface et puis un petit peu aussi sur une jurisprudence de dire, bah oui, ça on peut faire, ça on peut pas faire, et puis pourquoi, quoi, et de l'expliquer aux gens, quoi. Et comme moi, j'aime bien dire, mon rôle, c'est je suis la partie pas visible de l'iceberg. Donc et moi, ça me va bien. J'aime pas trop être mis en lumière, donc ça me va bien de faire un travail en sous-marin. Et en plus, avec la particularité, j'habite à 50 km de Crépy-en-Valois.
Oui.
Donc, bon, j'y suis souvent, mais le télétravail, ça fait longtemps que je m'y suis mis au télétravail. Hein, parce que je peux pas... J'ai aussi une vie familiale, donc je dors pas à Crépy. Hein.
On confirme, hein, tu rentres bien le soir. Hein, voilà. On va rassurer madame, hein, qui sera bien là ce soir. Donc, Thierry... comment t'es venu ce rôle? Est-ce que c'était, tu étais prédestiné à faire ce genre de choses ou c'est ta passion du hand qui t'a... Parce que si t'ont proposé, c'est que tu avais vraiment des compétences quoi, qui étaient nécessaires pour faire ce genre de choses.
Alors, moi je suis relativement humble, donc les compétences, oui, certainement Eric pensait que je les avais. Après, j'ai un parcours qui est assez atypique. C'est que j'ai commencé à jouer, hein, je vous dis, j'ai commencé très jeune. Mais très jeune, je me suis rendu compte que je ne serais jamais un grand joueur. Donc, dès l'âge de 17 ans, je me suis intéressé au monde de l'entraînement. Et j'ai entraîné, je vais dire très sérieusement, jusqu'à l'âge de 50 ans. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à m'intéresser à c'était quoi les dirigeants, donc les dirigeants d'un club. Et à travers ce parcours-là, j'ai été jusqu'à être vice-président délégué du comité OAS pendant un certain nombre d'années. Je me suis aussi investi sur la Ligue de Picardie, de l'ex-Picardie. Et j'ai été jusqu'à la plus grande marche, puisque j'ai été aussi président de la Ligue de Picardie. Donc en termes, je dirais, sur les structures, je savais de quoi il en retournait. Et parallèlement à ça, j'étais aussi inscrit sur des commissions au niveau de la fédération, donc il m'a voulu rencontrer, je dirais, du handball en dehors de notre territoire isarien et en dehors de notre territoire picard. Donc ça, ça a amené une certaine richesse. Et aussi de côtoyer des gens. Mais où je ne me suis pas arrêté là, c'est que je me suis aussi intéressé à d'autres sports, dont le sport qu'on nous met toujours en opposition, le football. Moi, je pense qu'on n'est pas en opposition, on a une vie différente. Mais je me suis intéressé au football. Et à travers mon intéressement, j'ai eu la chance de rencontrer les gens du FC Chambly presque à leur démarrage. Donc j'ai participé très modestement au démarrage du FC Chambly à travers un rôle de préparateur physique. Mais toujours pareil, ça m'a intéressé. Donc en 1998, j'ai été invité par le président du club de Liancourt à intégrer son équipe technique et j'ai passé un diplôme d'entraîneur parce que je voulais voir comment ça fonctionnait, sans me désintéresser du hand. Hein. Donc, je suis resté un petit peu parce que je voulais voir un peu la comparaison, ce que c'était, comment on faisait, quoi. Et aussi pourquoi? Parce que dans le football, les rôles de manager général étaient déjà beaucoup plus implantés que dans le hand. On n'en voyait pas beaucoup. C'est un rôle qui n'intéresse pas forcément. Hein. On gère les problèmes. Hein. Donc, en termes de plaisir, c'est pas rigolo tous les matins, quoi. Mais c'est comme ça, c'est un choix. Mais par contre, c'est un rouage important. Parce que si on ne met pas ce rouage en place, et on l'a encore plus vu avec le Covid, où il fallait s'adapter continuellement, ben, l'association elle peut vite péricliter. Quoi.
C'est une fonction d'organisateur général, qu'on peut dire.
Oui, c'est ça, quoi. Bien sûr.
C'est-à-dire que vous faites le lien du joueur jusqu'au président de club. Quoi.
Oui.
C'est ça.
Et avec les interfaces, le comité, la ligue, la ville de Crépy.
Oui, d'accord.
Est-ce que tu t'occupes aussi du recrutement, Thierry? Par exemple, un entraîneur, un dirigeant, un arbitre, je ne sais pas. Il y a plein de postes hein, dans un club. Est-ce que c'est toi qui rencontres les gens et
Oui.
Qui... Oui. Ça fait partie de ton rôle aussi.
Tout à fait. Et la même chose, c'est, par exemple, moi, là, j'ai discuté avec les entraîneurs qui vont être sur les deux pôles, garçons et filles. Donc, je leur dis, c'est eux qui cherchent les joueurs. S'ils ont un problème, hein, on peut un peu les aider, mais eux, ils sont à la recherche. Ils nous font des soumissions et puis après, nous, on voit si le joueur ou la joueuse a le profil de l'association.
Oui. Donc, il y a des valeurs dans ce sport, bien sûr.
Oui, tout à fait. Ouais.
Quelles sont les valeurs que tu mets en priorité?
Déjà, ça va être la valeur du partage. Ça, c'est clair. Hein. La loyauté, parce que quand je dis la loyauté, c'est pas, on s'inscrit pas dans une association, on vient chercher quelque chose et puis on se sauve parce que ça va pas. C'est, on y vient, on est d'accord, on va partager les biens et les moins biens. Et puis, on va apporter quelque chose pour faire grandir l'association. Nous, on ne veut pas de jeunes qui viennent juste voir où ils ont l'impression, parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas trop mal, ils viennent, ils profitent de la situation. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils amènent une valeur ajoutée. Tous les gens qui doivent venir de l'extérieur de Crépy, c'est des gens qui amènent un plus. Parce que si localement, on a déjà la même chose, on ne va pas dire à un jeune issu du club, « Non, toi, tu ne vas pas jouer parce qu'on était chercher un gars à l'extérieur ou une fille à l'extérieur. » Et qui nous apporte pas plus de choses que toi, quoi.
Alors, on peut dire que le club de Crépy est en bonne santé quand même. Malgré la période Covid-19, le club est quand même à un bon niveau. Hein.
Alors, il y a deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. La question que tu me posais, est-ce que le club est en bonne santé ? Oui, on peut dire que le club est en bonne santé parce qu'il y a une vraie gestion, il y a une vraie organisation. Éric Giraudon, le président du club, il a très bien organisé son club en niveau structuration et chacun connaît son rôle. Je tiens le trésorier, avec son pôle finance, il sait ce qu'il doit faire. Et le pôle administratif, avec la secrétaire générale et les gens qui sont avec elle, savent aussi ce qu'ils doivent faire. C'est important parce que souvent, les associations, les gens, ils picorent un petit peu partout, ils prennent un petit peu de les choses et puis on ne se rend pas compte. On amène un terme que j'aime pas trop, mais on parle de professionnalisation du monde associatif. Alors, on se trompe un peu parce que en vérité, c'est plutôt de la structuration du monde associatif. Parce que professionnalisation, ça fait peur à tout le monde et ça ne donne pas envie de venir, surtout. Quelqu'un qui sort de son travail, on lui parle de professionnalisation, il dit bah, « ouais, c'est bon, je pars bosser une deuxième fois dans ma journée ». Donc, pour clôturer ce que tu disais, oui, le club, il est en bonne santé. Pourquoi ? Parce que malgré le Covid, on se rend compte qu'on ne perd pas de licenciés ou vraiment très, très peu. Hein. Parce qu'il faut quand même savoir que cette année... La saison a commencé pour les plus grands, elle a commencé début août, mais pour tout le monde, elle a fini au mois d'octobre. Ouais. Hein. Donc ça a été vraiment une douche très froide, quoi. Donc là, il a fallu tout de suite se projeter dans autre chose et on a fait preuve d'imagination complète. Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu après.
Est-ce que vous pouvez nous présenter quand même le club, c'est-à-dire le nombre de participants que vous avez dans chaque classe d'âge, etc. Parce que j'ai l'impression que le club est important dans Crépy. En tout cas, nous, on en a entendu parler plusieurs fois. Effectivement, le hand semble avoir une place particulière ici.
Et on peut même dire que ce n'est pas que sur Crépy, parce que sur les Hauts-de-France, vous êtes un des clubs le plus complet, quoi, on peut dire, au niveau de toutes les catégories et tout ça. Hein. Vous êtes représentatif du handball, ce qu'on disait, donc de la bonne santé du handball.
Du handball.
Ah oui, ça y est, je me suis fait avoir. Et pourtant, j'ai dit au début d'émission que c'était allemand, il fallait dire balle.
Un point moins pour Fred.
Voilà.
Mais alors, il y a deux choses. Hein. Effectivement, la partie du club, et je reviens, André, après sur sa question, la partie du club de Crépy aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir, de se targuer, d'avoir dans les catégories jeunes qui peuvent jouer en région, c'est à partir de moins de 18. C'est un peu comme on va retrouver dans d'autres activités sportco. Et la deuxième, c'est moins de 15. Donc nous, on a une équipe de moins de 18 garçons et filles, moins de 15 garçons et filles qui évoluent au niveau régional. Et dans les Hauts-de-France, il n'y a que 4 ou 5 clubs qui peuvent se targuer d'être dans ce cadre-là. Donc là, ça veut dire qu'on est dans une bonne santé. Mais au-delà de ça, ça veut aussi dire qu'à Crépy-en-Valois, on ne regarde pas le genre de travers. C'est que tu sois un garçon ou une fille, tu seras traité de la même manière et on t'apportera les mêmes choses. Alors qu'il y a des structures qui ont fait des choix, qui sont plus garçons et d'autres plus filles.
Ah oui.
Ça, c'est aussi, je dirais, une des choses où Eric m'a fait complètement confiance. Moi, depuis le début, je milite en disant de se couper d'un côté, c'est pas bon parce qu'en termes de développement, dans le réseau familial, il y aura à la fois des garçons et des filles. Et on ne peut pas demander aux parents, vous choisissez. Non, ils ne choisissent pas. Ils viennent dans une association, ils veulent que leurs enfants, s'ils veulent les enfants veulent pratiquer le même sport, qui n'est pas une obligation, ils aient les mêmes chances. Donc à Crépy-en-Valois, quand on commence au baby hand, qu'on soit un petit garçon ou une petite fille et un petit garçon, on aura les mêmes chances. Ça, il faut le savoir. Il n'y aura jamais de sectarisme et on aura la même proposition sur les nombres d'entraînements. Ça, c'est clair aussi. On ne fait pas croire que. Le seul souci que l'on a, c'est, et ça, c'est malheureusement, ce n'est pas de notre fait, mais c'est au niveau national, c'est qu'il y a beaucoup moins de filles que de garçons qui pratiquent. D'où aussi la valoisienne qu'on parlera tout à l'heure, qui aura un objet par rapport à ça.
Tout à fait, oui.
Donc, par rapport à ce manque de jeunes filles, dans les catégories très jeunes, ça amène quoi ? Ça amène de la mixité. Hein. Donc, sur la catégorie moins de 9, sur la catégorie moins de 11, les joueurs sont en mixité. Nous, on travaille qu'à partir de la catégorie moins de 11, on puisse faire une équipe que de filles. Hein. Donc cette année, si M. Covid ne nous avait pas interdit de jouer, on avait trois équipes en moins de 11, deux équipes de garçons et une équipe de filles. Donc ce qui est bien, parce que c'est important que les filles elles jouent entre elles, même s'il y a des filles qui voudraient faire jouer avec les garçons, hein. Il faut le savoir. Et à partir des moins de 9, on travaille aussi sur un projet de dire de réduire le nombre de joueurs sur le terrain, puisque là, en moins de 9, on joue à un gardien de but et 5 joueurs de champ. 4 joueurs de champ, pardon. Et l'idée, ce serait d'avoir un gardien de but et 3 joueurs de champ. Donc, on pourrait essayer de constituer les équipes de filles en moins de 9. de façon à pouvoir se projeter et ne pas être de dire on arrive en moins de 15, on dit les filles, si vous voulez avoir une équipe, il faut chercher des copines. Quoi. Donc l'idée, elle est là. C'est vraiment, on veut donner les mêmes chances à tout le monde. Et j'en veux pour preuve, c'est que même quand on va arriver sur la section sportive, dans le recrutement à l'intérieur de la section sportive, on va vraiment avoir le souci de dire on veut autant de garçons que de filles.
Alors, ça représente quelle population quand même, quelle fréquentation, combien de personnes alors, à peu près?
Au total, il y a 298 licenciés.
D'accord.
Et si on regarde la population adulte, on a à peu près une quarantaine d'adultes.
Oui.
Et si on s'amuse à faire des petites tranches, on va dire moins de 18, moins de 15, moins de 13, moins de 9, on est toujours à peu près sur une vingtaine d'individus. Et en sachant que sur la catégorie moins de 15, on est un petit peu moins riche, mais on va être un peu plus riche sur la catégorie moins de 11. Mmh. Puisque sur la catégorie moins de 11, sur garçons et filles, on va être sur une trentaine d'individus. Mais je dirais grossièrement, si on avait 25 individus par tranche, ça serait très très bien. Quoi. Mmh. Mais si on a plus, tant mieux.
Et puis en plus, c'est l'avenir, hein, les jeunes, pour le club. Hein, de toute façon.
Tout à fait.
Oui. Et donc, il y a des partenariats aussi avec des collèges, hein, c'est ça?
Oui. Donc là, on a un partenariat avec le collège Jean de La Fontaine, à travers une section sportive. Et cette section sportive, elle est à sa troisième année de vie. On a, la première année, on était sur les 6e, 5e pour des problèmes d'organisation. Donc déjà, je remercie, je dirais, la ville de Crépy et aussi le lycée, parce que le lycée nous a laissé les heures. Maintenant, on est de la 6e à la 3e et on est sur deux instances sportives, puisqu'on est à la fois sur la salle Marcel Quentin et sur la salle Irène Kropenak. Et on est sur deux séquences d'entraînement. On est sur une séquence du mardi après-midi et sur une séquence du vendredi après-midi. Mmh.
Mais ça, c'est un chapitre particulier, ce partenariat. Autrement, l'activité principale, elle est quand même centrée autour de la compétition.
Pas vraiment.
Est-ce que c'est la compétition qui organise, je dirais, la fonction club ou...
Aujourd'hui, la compétition, c'est indépend du club.
Oui.
Moi, je suis intimement convaincu que demain, c'est pas la compétition qui va faire vivre les clubs. C'est tout ce qui est autour de la compétition. Et ça, on y travaille.
Oui.
À tel point que la section Baby Hand, il y a une trentaine d'enfants qui sont là. Mmh. Et eux, ils sont pas du tout dans la compétition.
Oui.
Sur les moins de 9, c'est pareil. Les moins de 9, quand ils vont être sur des plateaux, ils font des matchs, soit ils comptent des points, ils comptent les points du match, soit, mais à la fin du tournoi, on ne regarde pas qui est premier, qui est dernier. On amène un esprit compétitif, parce que moi je suis intimement convaincu qu'à partir de l'âge de 7 ans, on a besoin d'être un petit peu dans un challenge,
oui.
Mais quand on a 7 ans, c'est surtout les parents qui sont intéressés par le classement. L'enfant...
C'est eux qui hurlent sur les... Voilà. Voilà.
Ouais.
C'est le jeu qui compte.
Bien sûr, les enfants, ce qu'ils veulent, c'est jouer.
Oui.
Hein. Eux, quand ils arrivent dans la salle, tout de suite, il faut être capable de leur proposer tout de suite une situation où ils vont commencer à se mettre en activité.
Voilà.
Donc, ce que je disais, c'est que on a tout ce pendo-là qui est sur la partie, je dirais, préparation à la compétition.
Oui.
Mais au niveau du club, c'est surtout à partir de la catégorie moins de 13, où là, on va commencer un petit peu à... J'aime pas trop ces termes-là, mais à faire des équipes de niveau pour permettre à tout le monde de jouer. Hein, parce que ça aussi, c'est un petit peu compliqué des fois à expliquer aux parents. Il vaut mieux qu'il y ait un enfant qui joue plus dans un niveau de jeu qui lui correspond avec des gens qui lui correspondent que faire illusion dans une équipe. On n'est pas champion du monde en moins de 13.
Mm-hmm.
Donc, il n'y a pas d'intérêt de dire « je fais partie de la meilleure équipe de Crépy-en-Valois ». Ce qui compte, c'est qu'à la fin de la journée, effectivement, j'ai joué un temps de jeu qui correspond à quelque chose. Quoi.
On va préciser certaines choses quand même. C'est qu'il y a du... Alors, j'ai vu comment ça s'appelle. Du handfit. C'est quoi du handfit, Thierry?
Alors, le handfit, c'est ce que la Fédération française de handball a pris par rapport au sport santé. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de fédérations qui sont parties vers des alternatives. Je dirais, on part de l'activité handball, puisqu'il y aura un ballon de hand à un moment donné. Mais en vérité, on va proposer à une population adulte, voire adolescent, qui ne trouve pas, je dirais, son plaisir à jouer au hand, et à travers un sport lié à la santé. Donc ça va être quoi? Ça va être sur une séance, on va proposer tout un déroulé où la balle va avoir sa place, mais c'est un petit peu comme si je faisais une séance de fitness.
Mm-hmm.
Mais c'est hand fit.
Alors, il y a du hand loisir aussi.
Oui.
Donc, pour ceux qui veulent faire du hand pour le plaisir, pour se défouler, voilà. Et puis, il y a aussi, avec Mélanie Riez, qui m'a invité déjà deux, trois fois, vous faites un tournoi autour du handicap, c'est ça?
Oui. Hein? Alors, donc, par rapport à ça, si je reprends vite la parole sur le loisir, le loisir, c'est quoi? c'est des gens qui sont dans une pratique, je dirais, compétitive sans classement. Hein, parce que quand ils jouent pour gagner. Hein. Mais avec une particularité qui est assez particulière, c'est que c'est mixte. Donc, c'est des hommes et des femmes qui peuvent être ensemble. Mais pareil, il y a des clubs qui choisissent d'être que loisirs hommes et que loisirs femmes. Mais à Crépy, c'est garçons et filles. Et donc, ils vont être sur, ils ont une séquence d'entraînement par semaine et ils vont organiser aussi des compétitions qui ne sont que amicales, puisqu'il n'y a pas un championnat établi. Donc, c'est ça. C'est, parce que des fois, on mélange le loisir et le corporatif. Parce qu'au handball, il existe aussi du corporatif. Dans notre belle région, dans le Nord, il y a quelques équipes corporatives, mais dans l'Oise, il n'y en a pas. D'accord. Il y en a eu, il y a très très longtemps.
C'est des entreprises, c'est
voilà,
ça
c'est ça.
On précise. Ouais. Et pour le handicap.
Alors,
voilà.
Et concernant le handicap, c'est la Fédération française de handball a conventionné avec, parce qu'au niveau du handicap, il y a deux grands volets. Il y a ce qu'on va appeler le handisport. Malheureusement, c'est des gens qui ont subi un accident ou de naissance, ils ont un handicap et ils vont se retrouver en fauteuil. Donc, on va faire du hand-fauteuil. Avec la particularité, mais ça, c'est comme au basket, il faut savoir que hand-fauteuil, des fois, on peut constituer une équipe, mais malheureusement, il n'y a pas forcément 7 handicapés.
Ah, hein. Oui.
Et heureusement, d'ailleurs. Oui. Mais les valides peuvent jouer. Mmh. Avec une particularité, toujours pareil. Si c'est un valide qui est gardien de but, on prend la totalité du but. Par contre, si c'est quelqu'un qui est dans un fauteuil, on va réduire le but, comme chez les enfants. Donc là, on est sur le handi. Par rapport au handi, la Fédération française de handball a, je dirais, une latitude relativement simple parce que il n'y a pas de, contrairement au basket, il n'y a pas d'équipe de France de handi. Donc il y a certains endroits, comme par exemple il y a les Pays de Loire où il y a énormément d'équipes. Alors que nous, dans notre région, quand on en fait, on emprunte du matériel, on emprunte des joueurs, souvent c'est des basketteurs, des anciens handballeurs qui sont passés au basket parce qu'il n'y avait pas. Et par contre, il va y avoir ce qu'on va appeler le sport adapté. Donc le sport adapté, c'est tous les gens, soit qui sont dans un handicap social, soit qui sont dans un handicap lié au mental. Et là, par rapport à ça, on est dans une posture complètement normale. Ça, il faut le savoir. Et ça va, c'est tellement dans la normalité, c'est que ces gens-là, ils ont une licence en ensemble. Ils peuvent avoir aussi une licence sport adapté, puisqu'il y a une fédération de sport adapté. Et dans notre belle région, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-François Tétard, qui est sur Compiègne, et qui fait partie de cette fédération-là, et qui est aussi handballeur. Mais en sport adapté, par exemple, dans l'Oise, c'est surtout le club du Pays du Clermontois, où il y a une section sport adapté qui est assez importante. Ce qui se passe, c'est que les joueurs, ils peuvent avoir trois licences. Une licence hand ensemble, sur laquelle ils ne font pas de compétition. Une licence sport adapté avec lequel ils peuvent faire des compétitions. Par exemple, au Pays du Clermontois, ils ont deux joueurs qui sont en équipe de France, puisqu'il y a une équipe de France de sport adapté. Et ils peuvent aussi jouer avec des valides, parce qu'il y a toute une graduation sur cette chose-là. Donc le maître mot, c'est l'inclusion. C'est comment on inclut, je dirais, ces gens qui n'ont pas eu la chance d'être complètement, je dirais, dans un standard. Mais par contre, je dirais, la Fédération française de handball n'a pas eu vocation à avoir une délégation sur la compétition, mais qui a dit, moi, ces gens-là, je vais les adopter. Mmh. Et à travers ces adoptations, il y a des propositions d'animation comme vous avez déjà pu assister.
Oui. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que tu vois le bonheur dans les yeux des gens
moi,
qui
viennent. Moi, j'en parle, j'ai des frissons.
Bah oui. Et les enfants qui arbitrent et tout, moi, je trouve ça super parce qu'il y a vraiment, tu sais, un mélange entre le handicap, entre les jeunes et tout. Et il n'y a pas beaucoup de sports qui font ça. Hein. Ça n'existe pas dans tous les sports.
Non, hein. Non. Et donc, je disais, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et quand j'étais à la Ligue de Picardie, j'ai travaillé avec un garçon qui était chargé de développement et qui était le roi de la petite phrase. Et il a trouvé une phrase qui est merveilleuse par rapport à ça, qui va vous plaire. C'est, l'idée, c'est de dire, on y vient avec des différences et on y repart avec des ressemblances. Donc là, on est complètement dans le sujet.
Tout est dit, voilà. C'est ça.
Il n'y a rien à rajouter.
Ouais. Et moi, je conseille aux auditeurs d'aller voir ce genre de tournoi. Oui. Donc c'est toujours en période d'automne, je crois que c'est ça. Hein.
C'est ça, ouais.
Après, est-ce qu'on aura le droit de le faire ou pas, ça c'est autre chose. Mais ça se passe à la salle Marcel Quentin.
Ouais. Et c'est Mélanie qui gère.
On fait un petit coucou à Mélanie Riez. Voilà. Qu'est-ce qu'elle sait recevoir aussi, Mélanie, voilà. André, avant qu'on écoute la musique, as-tu des questions techniques sur le handball? Moi, je vais te poser une question, André.
Oui.
Le temps de jeu au handball, c'est combien de temps?
Alors moi, je me rappelle les temps au rugby. Je me rappelle les temps au basket. Mais après, non, je ne sais plus.
Allez, on va t'aider parce que là, on va être bientôt à la première mi-temps, là, bientôt. Hein. Et tu sais combien de joueurs? Parce que Thierry l'a plus ou moins énoncé plusieurs fois. Combien de joueurs sur le terrain?
Ils sont un certain nombre.
Ouais, c'est ça.
Il y en a pas mal sur le banc aussi.
Non, mais ça a évolué, mais énormément, hein, les réglementations du Durand. Hein. Quand on regardait il y a quelques années, là, ça a changé complètement. Hein.
Plus sérieusement, vous pouvez nous rappeler toutes ces choses-là?
Bien sûr, bien sûr. Donc, chez les adultes, ils vont jouer une heure, 60 minutes. Chez les moins de 18, ils vont aussi jouer une heure. Et puis après, ce n'est pas trop compliqué parce qu'on enlève 10 minutes à chaque fois.
D'accord.
Donc, on va descendre. En termes d'effectifs, jusqu'à la catégorie moins de 13, on va jouer 7 contre 7. Et puis à partir de la catégorie moins de 11, on va enlever un joueur de façon à travailler sur un effectif réduit. Parce qu'en plus, quand on va arriver dans la catégorie moins de 9, la catégorie moins de 9, ils jouent sur la largeur du terrain. Donc s'ils étaient trop nombreux, ça ne serait pas forcément très épanouissant. Quoi. Par contre, en termes de changement, la particularité du hand, c'est le remplaçant, c'est ce que je vais appeler un remplaçant éphémère, puisqu'il y a des remplacements éternels au hand. On change comme on veut, il n'y a aucune limitation. Et la dernière grande innovation qui est arrivée, c'est que tous les joueurs sont actifs, puisque l'avant-dernière règle, on disait que le gardien de but, quand on se faisait sortir le gardien de but et on mettait un joueur qui le remplaçait, il portait une chasuble. Maintenant, il n'y en a plus.
Ouais.
C'est je sors le gardien de but, c'est mon problème. Par contre, maintenant, on peut jouer à 7.
Ouais.
Donc, il y a de plus en plus d'équipes. Et même chez les jeunes, ça commence à arriver. Ça vient des pays scandinaves, de jouer à 7 en attaque contre 6.
Ouais. Hein.
Et la prochaine, pour moi, la prochaine grande innovation, le questionnement qui va se poser, c'est est-ce qu'on continue d'engager au milieu de terrain ou est-ce qu'on engagera du but?
Ah oui.
Parce que ça pourrait être une évolution. C'est là donc, où le handball il a énormément progressé. Si on regarde ce qui se passait en D1 dans les années 70, ce n'était pas rare de voir des scores où il y avait 12 à 10, par exemple. Que maintenant, ce n'est pas rare qu'on se rapproche des 50 points.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc, il a été fait pour être visuel, le visuel beaucoup plus intéressant pour le supporter, pour les publics, et notamment pour la télé, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a besoin aussi de ces supports-là, et en sachant que le hand, il se porte très bien au niveau international.
Bien sûr,
On a une équipe masculine et féminine qui sont très fortes. Hein.
Le handball, en restant très humble et très modeste, a le plus beau palmarès cumulé, garçons et filles, de tous les sports courts en France. Bon, après, c'est comme ça. Après, les esprits chagrins vont nous dire « Oui, mais vous, c'est parce que vous avez une compétition majeure tous les ans, donc vous pouvez glaner plus. » Mais bon, c'est comme ça. Non, mais par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que l'évolution du hand, elle est aussi, pour faire évoluer le jeu, pour que ce soit plus attractif, comme le volley a su faire évoluer le jeu au niveau de son marquage de points. Mais vous allez me dire, le gardien de but, à quoi il sert maintenant? Dans les matchs, même s'il y a eu beaucoup de buts, les gardiens qui ont fait entre 15 et 16 arrêts, effectivement, ils vont porter. Par contre, ce qui a énormément changé, c'est où hier, la maille de temps, on était sur des variations de 20 secondes. Maintenant, la maille de temps au niveau du jeu, on est sur des variations de 3 secondes. C'est au hand, quand il reste 20 secondes à jouer, on peut encore marquer 3 buts.
Hein. Oui.
Donc, ça devient important. On rejoint nos amis basketteurs quand on parle de possession de balle.
Oui. Puis on peut signer quand même que le hand, c'est physique quand même, hein, parce que ça se rentre dedans. Hein.
Je trouve
il y a du contact. Hein, ouais.
Des fois, je trouve même plus physique que le rugby. Alors,
ouais. Comment tu gères ça, Thierry, avec les jeunes, alors, ce côté physique du sport?
Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot, la loyauté.
Oui.
On peut être dans un physique, mais dans un physique, je dirais, face à face, où on est loyal, mais on ne laisse pas passer le joueur pour lui arracher le bras ou lui arracher les oreilles au passage. C'est en face à face. Hein. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce qui a évolué aussi, c'est les joueurs. Par exemple, à très haut niveau, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ils sont tous autour de 2 mètres.
Oui.
Et aujourd'hui, à Paris, il y a un joueur qui mesure 2 mètres 14. Non, surtout, ce qui a évolué, c'est comment on fait jouer des joueurs grands comme ça. Quoi. Mais à Paris, il y a aussi une autre particularité, si on parle d'eux, même s'ils n'ont pas forcément brillé lors du Final Four de la Ligue des Champions, ils ont avec eux un Néerlandais qui s'appelle Luc Stein, qu'il faut savoir, qui mesure 1m75. Donc aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Ça, ce n'est pas le problème. Après, c'est les qualités du joueur qui vont faire la différence. Mais pour rejoindre ce que tu disais, ça va être très important, tout de suite chez les joueurs, de leur faire comprendre il y a des choses que l'on fait, il y a des choses que l'on ne fait pas.
Oui, voilà. Ça fait partie de la loyauté, ça fait partie des règles du jeu.
Tout à fait. Et respecter les choses.
Ouais, respecter, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est inculqué tout de suite chez les jeunes. Voilà.
Chez le plus jeune âge.
Ok. Thierry, on va écouter de la musique?
Pas de souci.
Hein? Alors, c'est la surprise, on ne sait pas. On va
dog, people think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy?
Voilà, donc les Rolling Stones, hein, une valeur sûre. Hein. Je ne sais pas s'ils jouent au hand, hein, bon, mais peut-être. Alors, vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est votre émission Le Bouche-Oreille qui reçoit ce soir l'association Handball Club de Crépy-en-Valois, représentée par Thierry Foussard, donc le manager général. Donc, on n'a pas de secret, hein, on va tout connaître sur le hand. Hein.
Oui.
Les auditeurs, si vous avez des questions, donc c'est sur le Facebook RVM FM, sur le mail auditeur@rvmfm.com ou au téléphone 03 44 59 30 30. On transmettra à Thierry. Voilà. André, je crois que tu avais des interrogations sur les parents.
Oui, tout à l'heure, on a un peu évoqué les parents qui viennent inscrire leurs enfants et leurs attentes. Et très souvent, vous avez eu affaire, si j'ai bien compris, aussi à des parents qui peuvent avoir des espoirs fous de fabriquer un champion en quelques séances. Je ne sais pas ce que... Est-ce que ça vous arrive, des choses pareilles ?
Oui, ça nous arrive. Et ça fait partie de mes attributions de discuter. Ça fait partie de mes attributions de discuter avec les parents.
Oui.
Et ce qui peut être encore plus compliqué, c'est quand il y a une fratrie.
Oui.
Parce que bah, des fois, dans la fratrie, il y en a qui sont un petit peu plus doués ou un peu plus motivés. Parce que souvent, le problème, il est là. C'est pas tellement... On ne peut pas dire qu'à 10 ans, un enfant, il est bon, pas bon, il a plus de disponibilité, où il en est dans sa croissance. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des garçons, à 10 ans, ils vont mesurer 1m50, mais il y en a qui mesurent déjà 1m70. Mmh. Donc, ils n'ont pas eu le même parcours au niveau de leur croissance. Et le hand va demander beaucoup d'habilité, beaucoup de changement de direction. Donc, c'est sûr que le centre de gravité va avoir une importance. Mais ça, les parents, ils ne le voient pas forcément. Mmh. Eux, ils voient leur bambin tous les jours. Et surtout, ils veulent le meilleur pour lui, ce qui est normal. Mmh. Alors, comme je disais tout à l'heure, au niveau du club de Crépy, on va traiter tout le monde de la même manière. Qu'on soit un petit peu en difficulté dans l'apprentissage ou qu'on n'y soit pas, tout le monde aura la même séance d'entraînement. Par contre, derrière, ce qu'on va faire, on va essayer d'adapter et d'aménager les temps de compétition. Et on essaie d'avoir des équipes qui vont correspondre au profil des enfants du moment. Et des fois, les fratries, elles sont un peu partagées, hein, quand on est dans de la mixité. Et même après, puisque ça nous arrive d'avoir des jumeaux, et que les jumeaux ne sont pas au même niveau. Et là, c'est vrai, des fois, ça amène... des grandes explications, mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu.
Vous avez eu des parents qui étaient mécontents parce que leur enfant n'était pas assez bien classé ?
Oui, ils n'étaient pas dans, pour eux, la meilleure équipe.
Ah oui. Bon. Eh oui. Alors que vous privilégiez quand même plutôt le parcours de l'enfant,
ouais,
et son intérêt.
Son développement. Ouais.
Et son développement, c'est ça.
Bien sûr.
Mais ça a besoin d'être dit aussi aux parents qui viennent inscrire leurs enfants dans les clubs de sport, ça.
Oui. Et surtout, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain.
Oui.
Voilà. Oui. On peut préciser aussi, Thierry, que vous faites aussi un suivi au niveau des études des enfants, tout ça. Il y a tout un parcours qui fait que l'enfant n'abandonne pas ses études quand même. Hein.
Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux ans en arrière, on a créé une académie, on a fait une académie. Alors, on a mis un Y. Pourquoi on a mis un Y à notre académie? Parce qu'on ne voulait pas mettre un IE. On n'a rien à voir avec l'éducation nationale. On ne se prend pas pour l'éducation nationale. On est sur un accompagnement. L'idée, c'est je suis handballeur aujourd'hui, je serai citoyen demain. Et surtout, notre observable principal, c'est de détecter les enfants qui sont en problème scolaire. Quand je vais appeler problème, moi, je ne suis pas là pour juger s'ils ont des bonnes ou des mauvaises notes, mais on voit bien qu'ils sont un peu dans du décrochage scolaire. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des discussions avec eux, d'utiliser un petit peu le hand pour raccrocher. Ce qui est bien, c'est que maintenant, au niveau des parents, puisqu'on en parlait, on a compris, parce qu'il y a très longtemps, souvent, quand l'enfant ne travaille pas bien à l'école, on le privait de sport. Ce qui n'était pas forcément bien, parce que finalement, aujourd'hui, je pense que les parents se sont rendus compte qu'on prive de tout, hein. Le téléphone portable, la console de jeu, le sport, mais les enfants, on a du mal à les toucher. Moi, je pense qu'il faut plutôt essayer de comprendre où est le problème, voir comment on peut les accompagner sur leurs problèmes. Et puis, tout doucement, ça sera quoi le mieux pour eux? Donc, dans la continuité de ce que disait Fred, c'est aujourd'hui, on a commencé, par exemple, par des enfants qui sont en seconde, à se projeter avec eux après le bac et de dire peut-être que ça sera l'apprentissage qui sera une voie intéressante pour toi par rapport à ce que tu veux faire. Parce qu'après, on ne va pas s'en cacher et ce n'est pas un reproche. Aujourd'hui, on est dans une société qui est quand même très élitiste.
Oui, oui. On peut revenir avec cette idée de partenariat alors avec l'éducation nationale.
Donc le partenariat avec l'éducation nationale sur le collège Jean de La Fontaine,
oui.
On a des réunions où on va suivre. Alors on a repris quelque chose que l'éducation nationale, parce que maintenant on parle plus de notes, on met des couleurs. Mm-hmm. Nous on a utilisé, on a des cartons quand je vous vends, on a carton jaune, carton rouge. Et les enfants, on leur met des cartons quand ils sont pas dans les clous. Et surtout, c'est pour les aider à se reprendre. Et par exemple, s'ils ne vont pas non plus à l'entraînement, ils ne vont pas être lâchés dans la nature, ils vont être en études dirigées. Et en vérité, l'idée derrière, c'est de regarder ceux qui ont un petit peu de difficultés et de les accompagner. Mmh. Et dans cette continuité-là, on a commencé à réfléchir. L'enfant sort de l'école et avant de commencer à l'entraînement, on lui propose ce qu'on va appeler un goûter commun. Et puis après, on va leur proposer des accompagnements scolaires. Mmh. Donc, un enfant qui aura des problèmes en maths, on a commencé à trouver des gens qui, gentiment, veulent bien nous aider à accompagner ces jeunes sur cette discipline-là.
D'accord. Et on peut peut-être aussi maintenant parler des stages que vous organisez pendant l'été?
Oui, et toutes les vacances. Donc, ça, c'est la partie petites vacances. Donc, les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, les vacances de février, les vacances de Pâques. On organise des stages sur les deux semaines. Alors, je vous fais une parenthèse. Vous allez me dire, cette année, comment vous avez fait?
Oui.
Eh bien, on était dehors. Hein. On s'est rappelé que le handball, il y a très très longtemps, ça se jouait dehors, d'une manière alternative. Donc, on a réussi à avoir des endroits. Comme par exemple, quand on parle du partenariat avec l'éducation nationale et, la communauté de communes, on nous a prêté une enceinte. On a utilisé l'enceinte pour faire du sport. Et dans une activité, on a nettoyé l'enceinte, puisque l'activité, c'était de ramasser tout ce qui traînait par terre. Et l'idée derrière, c'était aussi de montrer aux enfants, tu vois, le papier que tu as ramassé, peut-être que c'est peut-être toi qui l'as jeté par terre. Donc la prochaine fois, avant de jeter un papier par terre, prends le temps d'y réfléchir et peut-être la poubelle, elle sera peut-être mieux pour l'accueillir que le sol. Donc on essaye aussi d'avoir une mission éducative par rapport à ça. Et sur les stages, quand on peut être dans l'activité handball, les stages, ils ont aussi deux vitesses. Il y a, pour les gens qui veulent venir jouer au handball, pratiquer le handball pour leur plaisir et des activités dérivées, et ceux qui veulent continuer de progresser. Donc, on va proposer les deux situations aux jeunes, et garçons et filles, bien sûr.
Alors là, tu as ramené un petit document donc pour un stage qui va se passer en Vendée, c'est ça, hein, Thierry?
Oui, tout à fait. Donc là, c'est pareil, le club travaille sur des projets. Et initialement, des jeunes du club avaient prévu d'aller faire un stage en Italie sur un tournoi qui s'appelle le tournoi Teramo, qui correspond à la Coupe du Monde des Jeunes, qui était un très beau projet. Et malheureusement, comme l'année dernière, à cause du Covid... Très tard, les organisateurs ont dû se résoudre d'annuler le tournoi. Donc comme tous les jeunes s'étaient énormément investis à travers les actions et les parents, pour le coup, nous ont mis un petit peu de pression en disant c'est un petit peu dommage de les laisser comme ça. Donc on a refait un 360, on a regardé des gens qu'on connaissait un petit peu et on a la chance d'avoir l'ancien président du club qui habite en Vendée Et donc, on a été en Vendée, démarcher la Vendée, mm-hmm. pour trouver un lieu de stage. Et on a trouvé un lieu de stage à côté des Herbiers. Et les enfants vont passer du 11 au 17 juillet, une semaine complète en Vendée, où ils vont être en partage entre du hand et les activités annexes, puisqu'ils vont aller au Puy du Fou et ils passeront une journée au bord de la mer.
Super. Ouais. Vous emmenez combien d'enfants, Thierry ?
Il y a 32 enfants qui partent.
Ah, quand même, ouais, 32 mmh. enfants. Ouais.
Mais on ne se rend pas forcément compte, mais ça représente un budget, c'est une organisation,
c'est
beau, hein. une logistique.
Il faut mettre les accompagnateurs, il faut mettre tout derrière,
fait.
Les structures.
Ouais. Ouais.
Est-ce qu'il y a des parents qui accompagnent ?
Il y a aussi des parents qui accompagnent.
Ouais. Mmh. Bénévoles, c'est ça ?
Oui.
Super. Bah, ça prouve qu'il y a une bonne osmose entre dirigeants, bénévoles, parents, donc c'est important. Hein.
Et quelle structure vous avez trouvée pour vous accueillir là, en Vendée ?
Donc des gens qui organisent des stages comme nous.
Oui.
Mais je dirais que quand on organise des stages en Vendée, c'est peut-être un peu plus facile que quand on organise un stage en Loise. Hein, c'est un peu plus vendeur.
Oui.
Donc c'est un club de hand qui fait tout pareil que nous. Hein, sauf qu'eux, ils le font en pension complète. Alors que nous, quand on fait des stages à Crépy, on n'est qu'en demi-pension.
Ah oui.
Et d'accord. Donc là, on est hébergé dans un CFA. C'est une organisation endurante.
Super. André, est-ce qu'on peut évoquer la Valoisienne ?
Ah ben bien sûr.
Puisque c'est un événement important qui va se dérouler le 10 juillet. Enfin, à partir du 10 juillet, parce que ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Thierry, tu peux nous évoquer un petit peu en quoi consiste cette manifestation ?
Donc la Valoisienne, ça va être un festival au féminin. Donc avec un peu le slogan « Ramène ta mère ». Et l'idée, c'est, on ne va pas se cacher, hein, on va rayer un peu quelques oreilles. Aujourd'hui, les jeunes filles issues des quartiers, elles ont du mal à venir dans la pratique sportive parce qu'il y a une vue masculine sur la pratique féminine qui est compliquée. Hein. Moi, je ne la juge pas, hein, mais on ne donne pas toutes les chances à tout le monde. Donc ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est dans le quartier, on va venir faire une manifestation sportive pour les femmes. Mmh. Et à travers, il y aura à la fois des épreuves sportives, je dirais, logoté handball, puisqu'il va y avoir des petits tournois, des séquences de tirs au but sur des gardiennes du club, hein, puisqu'on a demandé à une gardienne de chaque niveau de venir pour faire un petit peu un challenge. Il y aura un tir à la corde et il va y avoir aussi des prises de parole. Et il va y avoir aussi des animations annexes. Donc, je ne vais pas trop en dévoiler parce que je sais qu'il y a des choses qui seront redites après, mais il faut savoir que les gens qui vont venir sur la place le 10 juillet, ils vont passer un agréable moment. Et ce temps-là, il va s'inclure dans ce qu'on appelle les quartiers d'été. Donc on va retrouver de l'animation pendant tout l'été dans la partie du quartier Kennedy.
Place Jean-Philippe Rameau en face de la radio.
Voilà, c'est une place que l'on connaît bien.
Oui.
Et il y a forte chance que la radio soit partenaire de cette action.
Hein. Voilà, on l'espère.
On a déjà été, utilisé les ondes pour en parler.
Exactement. Hein,
plusieurs fois. Donc quand on lit le programme, il est quand même énorme. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de volets. Il y a beaucoup de. Il n'y a pas que du handball, hein, disons. Il y a beaucoup de choses autour des filles, autour des mères. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a même des ateliers de tri, de prise de parole. Il y a des expos photos, peintures, et puis ça se termine par un tir à la corde, qui n'est pas très handball, ça, mais...
Oui, c'est vrai. Mais par contre, qui est très participatif.
Oui, ouais. C'est ça.
Et c'est vrai que c'est une organisation qu'on appelle les organisations co-construites.
Oui.
Donc il y a plusieurs partenaires qui viennent s'imbriquer. Et l'idée, c'est vraiment... là, pour le coup, le handball devient presque un support, quoi. C'est lui qui va être un petit peu le maître d'œuvre. Mais il va s'articuler autour de différents thèmes. Et vraiment, l'objectif, c'est que la maman et sa fille, ou la maman et ses filles, ils aient passé un agréable moment, et toujours avec la même dynamique, puisqu'on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. L'idée, c'est de récupérer des nouveaux licenciés féminins. C'est que les gens, ils disent, tiens, le handball, c'est sympa comme truc.
Mm-hmm. Oui.
Et qu'on arrive à leur faire se déplacer du quartier Kennedy jusqu'au gymnase, puisque la distance est à peu près 500 mètres, de dire, voilà, on peut découvrir les choses. Ouais.
Ce sera un moment festif, si.
Voilà. Et on finira, comme tu dis, festif, puisqu'il y aura de la musique à la fin.
Oui.
Qu'avec des artistes féminines.
Oui.
C'est un peu le projet qu'on reste dans la thématique. Hein,
c'est ça.
Donc, à suivre les auditeurs, mais on annoncera ça sur les ondes de RVM, il n'y a pas de souci. Oui. Un petit point aussi avec les décibels, parce qu'on est dans les filles, on va continuer. Hein. Alors, les décibels, projet.
Ouais. Donc là, sur les décibels, déjà, avant d'aller un petit peu plus loin dans leur projet, il faut savoir, quand on a parlé tout à l'heure de la Vendée, il va y avoir des décibels qui vont participer, je dirais, à l'encadrement de ce stage.
Il faut rappeler ce que c'est que les décibels, parce que ceux qui nous entendent ne savent peut-être pas.
Alors, les décibels, on pourrait penser que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit, mais ils sont pas tort. C'est des jeunes filles qui ont de la voix. Et qui ont une voix généreuse, puisque comme le handball ne leur a pas permis, de s'épanouir sportivement pendant cette année, elles avaient envie de trouver une activité et elles ont trouvé un raid qui est dans le Verdon. Et ce qui fonctionne par équipe de trois. Donc là, il y a deux équipes de trois qui représentent les six filles de Dicibel. Et il y a un troisième groupe, comme il est arrivé un petit peu après, ils ont pas dit on fait trois nouvelles décibels, elles s'appellent les décibombes, mais elles sont toutes les neuf dans les mêmes, dans la même circonstance. Et si aujourd'hui vous allez regarder sur leur page Facebook, vous allez pouvoir les revoir. Oui. Et puis vous allez voir aussi, puisqu'il y a des points journaliers, pour les encourager, ça leur fera plaisir. Et elles sont parties, sont un raid, on peut appeler ça un raid nature. Mmh. Et l'idée, c'est aussi un petit peu, il y a un groupe de trois et chaque fois, on mesurera pas sur la première, mais on mesurera sur la troisième. Et un petit peu, si vous connaissez un petit peu les activités qu'elles vont rencontrer, elles vont faire du canoë-kayak. Alors, ceux qui ont déjà fait du canoë-kayak en couple, ils ont vu que ce n'était pas facile, mais à trois, c'est encore un peu plus périlleux. Hein, on en discutera avec elles quand on va revenir. Oui. Elles font de la course de natation, mais ça pourrait être très simple. Mais comme le massif, il est très, très haut et très escarpé, ça devient moins simple tout de suite. On les fait courir, ça pourrait être très simple, mais on leur met une frontale, puis on les fait courir la nuit, et ça devient aussi moins simple.
Oui.
Hein, puisque là, ils ont fait un cross de 12 km de nuit. On les fait courir en plein jour, mais ils ont juste l'impression qu'il faut courir. Mais en vérité, on se rend compte que ça ressemble plus à Koh-Lanta qu'aux 400 mètres des Jeux Olympiques. Donc, voilà.
Elles vont en revenir dans un état, les décibels.
Voilà, c'est ça.
Donc, ça a commencé le 15 juin, je crois, et ça se termine le 19 juin.
Tout à fait. Mais par contre, au niveau du club, on les accompagne. Et on compte bien capitaliser sur, je dirais, leur pan de vie qu'elles auront vécu ensemble pour qu'elles puissent le transmettre aux plus jeunes et puis aux autres filles de l'association.
Et en même temps, vous disiez que c'était quelque chose de généreux parce que je crois que...
Oui,
c'est pour une association, les petits
princes. Les petits princes, ouais, tout à fait. Elles ont été cherchées... Elles ont été chercher des dons pour alimenter cette caisse. Ouais. Et même, je dirais, une des choses qui les caractérise... Pour moi, il y a deux choses qui les caractérisent. C'est leur bonne humeur... et l'envie de donner du bien-être aux autres. Ça, c'est très clair.
Ce sont des ambassadrices pour le club de handball.
Oui, tout à fait aussi.
Oui, oui, ça
permet. Comme bonne humeur, on en a fait les frais ici,
oui, oui.
Dans le studio.
Moi, je me suis retrouvé avec 6 décibels dans le studio, j'étais débordé. Hein, donc, et c'est un très bon souvenir, et j'ai hâte qu'elles viennent nous faire la conclusion de leur parcours, puisque c'est le raid des étoiles du Verdon.
Ouais.
Donc, on va voir un peu le classement, parce que elles s'amusaient comme ça, mais elles étaient quand même un petit peu inquiètes, hein, parce qu'elles disaient, physiquement, est-ce qu'on va être prêtes, quoi.
Oui.
Et donc, c'est bien le Facebook, parce que moi, je rigole en regardant les vidéos. Elles mettent une vidéo tous les soirs. Il faut aller voir ça, les auditeurs. C'est super sympa.
Et c'est vrai, quand on voit les vidéos du matin, on voit que les visages sont un peu marqués. Parce que, mais elles le savaient. Hein,
elles ne dorment pas beaucoup.
Elles savaient à quoi s'attendaient. Ouais. Mais voilà. Par contre, c'est vrai que ça restera une très belle histoire humaine. Et ça, pour elles, ça sera aussi une expérience qui, je pense, qui va les faire grandir.
Oui.
Je trouve que c'est, dans tous vos propos depuis le début, vous parlez d'histoire humaine, mais j'ai l'impression que le handball à Crépy, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu une histoire humaine, quoi.
C'est l'humain, oui.
Bah, c'est même l'histoire du handball tout court. Hein. Le handball, c'est une très, très grande famille. Alors, comme dans les grandes familles, bah, y a des fois... tout le monde n'est pas forcément d'accord. Hein.
Les brebis galeuses.
Non, j'irai pas par là. Voilà. Les repas de communion ne sont pas forcément toujours très simples. Mais... par contre, je pense que ça vient aussi de notre histoire. C'est les premiers personnes qui ont construit le handball, c'est des gens qui venaient de l'éducation nationale. Souvent, c'est les instituteurs dans les petits villages, on s'en rappelle tous. Et puis après, il y a ce que moi j'appelle vulgairement les profs de sport, qui dans les collèges, ils ont fait perdurer, dans les lycées. Quand vous discutez avec plein de gens, tout le monde vous dit « moi, j'ai joué au moins une fois au handball
». Voilà.
Après, bah,
moi, j'ai fait ça en UFOLEP, on appelait ça UFOLEP.
Ouais. Oui, oui.
Je sais pas si ça s'appelle comme ça.
Si, ça s'appelle toujours. C'est toujours comme ça. C'est...
Bon, je parle de ça il y a quelques années.
Ouais, mais aujourd'hui dans l'Oise, il y a des gens qui sont par exemple au Tillet, là, près de Cire-les-Mélo, qui sont affiliés au UFOLEP. Ça, c'est... c'est pas grave. Après, chacun trouve le handball qu'il veut. C'est pour ça que dans le handball, il y a différentes choses. Mais moi, surtout, ce que je pense, c'est ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on vient y chercher et qu'est-ce qu'on en attend. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on l'a encore vu il n'y a pas très longtemps, la vie, elle devient de plus en plus compliquée. Alors, pourquoi se compliquer la vie à travers un loisir ? Non, partageons les mêmes choses. Alors, c'est vrai que dès qu'il va y avoir compétition, il va y avoir rivalité. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a passé ce seuil de la rivalité, on soit capable de boire un coup après, de rigoler, et puis voilà, on passe à autre chose. Mais ce qui est important, c'est ça va être le passage de témoins des plus grands vers les plus jeunes. Ouais. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a réussi à... Je dirais, c'est une des fiertés du club de Crépy, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez voir le Baby Hand, vous allez voir qu'il y a des jeunes... j'ai pas encore trouvé le mot... C'est pas éducateur, c'est pas dirigeant. Il y a des jeunes joueurs, hein, parce qu'ils sont juste 13 ans, qui viennent aider des enfants qui ont 3-5 ans, je dirais, à découvrir une activité sportive.
Leur passion, voilà.
Et leur temps, ils viennent donner leur temps, les collégiens, ils n'ont pas cours le samedi matin, donc ils pourraient rester au lit, ils se lèvent. Pour que vous sachiez tous, ça commence à 9h du matin.
D'accord. Oui.
Donc ça veut dire. Très bien dire, moi je reste au pieu. Et puis,
voilà. Alors je vais pas oser dire que des fois ils sont même plus contents de venir au Baby Hand que dans la semaine d'aller au collège. Mais voilà. Par contre, c'est important parce que moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui va faire le demain du monde sportif en France, c'est ce passage de témoin. Ouais. Chacun choisit l'activité qu'il veut. Il faut surtout qu'on soit tous vigilants à pas se retrancher chacun dans son coin, à plus partager avec les autres. Parce que là, s'il n'y a plus de dialogue, ça va être très compliqué.
Thierry, il nous reste peu de temps. André, as-tu une question ?
Pas une question, mais je reviendrai sur ce que je posais comme question au début, entre la compétition et puis ce que c'est que le handball autrement. Mais je crois que vous avez très très bien répondu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord effectivement une aventure humaine que vous proposez, et intergénérationnelle. Même si la compétition reste quelque chose d'important dans le club. Quoi.
Bien sûr.
Mais ce n'est pas le but ultime absolu. Quoi.
C'est pareil, si vous voulez, je vais vous partager très rapidement. Là, avec le Covid, on a vraiment fait preuve d'imagination à l'absolu. On s'est rendu compte qu'avec les garçons, les visios sportifs, c'était très compliqué.
Oui.
Par contre, avec les filles, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Par contre, on a vu aussi qu'il y avait des problèmes un petit peu du nombre. Donc, on a mis quelque chose en place. On a appelé ça « Restons en forme », comme ça, c'était... Et on a mis des visios intergénérationnels. On a mis des visios, on va dire, de 12 à 77 ans. Et les gens se retrouvaient en s'invitant grâce à WhatsApp, pour ne pas le citer. Et on disait, voilà, on va bien faire du sport ensemble. On n'était pas dans le jugement, on n'était pas à se regarder, on faisait du sport ensemble.
Ouais.
Et ça, je crois qu'il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux que les gens apprennent à se connaître. De plus en plus, les gens, ils vivent les uns à côté des autres, ils ne se connaissent pas.
Oui. Ouais, c'est vrai.
Donc Thierry, tu vois l'avenir du club ça va évoluer encore, ça va... Objectif, on a bien compris, c'est de faire monter les catégories. Mais à part ça, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place?
Pour répondre déjà à ta question, c'est vrai qu'on on s'est fixé des objectifs sportifs, parce que si on ne se fixe pas les objectifs sportifs, on sait qu'on va décliner. Donc ce qui serait merveilleux, c'est que les filles puissent monter jusqu'en National 2, ça serait merveilleux, et que les garçons puissent retrouver la N3 qui était le niveau de Crépy il y a encore quelques années. Et puis après, de faire perdurer notre niveau régional au niveau des jeunes, et de pouvoir avoir dans chaque équipe de jeunes une équipe qui joue au niveau départemental, de façon à ce que tout le monde puisse trouver sa place. Et ça, c'est important, ça. Et moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tous les licenciés, quand le samedi arrive, ils puissent être dans une équipe. Mais ils sont tous, sans faire cocorico, on joue tous pour Crépy. Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut arrêter de dire il y a des gens qui sont en bleu, des gens qui sont en jaune, des gens qui sont en vert, des gens qui sont en rouge. C'est quand je m'inscris dans un club, je veux m'identifier au club. Il ne faut pas interdire les gens de s'identifier au club. Donc, par contre, il faut leur donner les moyens de s'épanouir dans le club.
Voilà. Comment vous contacter? Comment adhérer, Thierry? Parce que là, on est en fin d'émission, ça y est.
Donc, on a une adresse mail, on a une page Facebook.
Oui.
Et je pense que la radio pourront vous laisser les numéros de téléphone, de gens à contacter.
Voilà.
Après, moi, je peux vous laisser le mien. Il n'y a rien de secret. Donc, moi, c'est Thierry Foussard. C'est 06 12 73 85 84. Et si vous voulez m'envoyer un petit mail, c'est tout du minuscule. C'est Thierry Foussard en minuscule, _, le tiret du 8 en bas, hb comme handball, @orange.fr.
Et je crois que le Facebook, c'est HBC Crépinois.
Crépinois, voilà.
Voilà.
Et on vous répondra.
Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, André. Très bien. Je crois qu'André va se remettre au handball, tu vois. Donc, il va prendre une licence vétéran. On peut jusqu'à quel âge? Il n'y a pas d'âge?
Non. Jusqu'à tant que ses genoux, tant que les genoux y tiennent, on peut jouer.
Par contre, le rôle de gardien, ça, c'est horrible.
C'est particulier.
Ah ouais. Quand tu vois les frappes, des fois, tu dis, oulala, le pauvre gardien.
Oui.
C'est une vocation, ça. Il faut aimer hein, ce poste. Hein.
Oui, mais si le gardien, il a touché la balle, c'est que le tir n'est pas rentré.
Oui, c'est vrai. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, voilà, c'était donc l'association Handball Club de Crépieux-Valois que nous recevions ce soir. Rediffusion de l'émission donc, le dimanche à partir de 16h, le lundi à 1h du matin et le mardi à 10h. Et après, c'est en podcast. Merci Thierry, merci André, merci Luc à la technique. Et nous allons remettre un diplôme d'émancipation radiophonique à notre invité. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
Au revoir.
C'était une émission de la rédaction de RVM.